En octobre 1864, l'arrivée du contingent de religieuses de l'ancienne maison mère de Saint-Jacques et l'augmentation constante du nombre d'élèves au pensionnat demandent la construction d'une chapelle qui pourra les recevoir toutes. En 1866, on en érige une derrière le manoir. Cette chapelle de briques, sans fondation, occupe deux étages avec son jubé. Achevée en 1870, elle sert au culte jusqu'en 1888. Elle est alors démolie, en même temps que le manoir, pour faire place à l'aile du sanctuaire de Sainte-Anne, aujourd'hui la section centrale de l'ensemble conventuel qui s'avance vers le boulevard Saint-Joseph. Dès la fin de la construction de la première chapelle, les religieuses constatent que les effectifs sans cesse grandissants imposent de nouveau la construction d'une chapelle plus vaste afin d'accueillir tout le personnel de la maison mère, du noviciat et du pensionnat. Dès 1878 sont émis des billets d'affiliation à l'œuvre de la construction du sanctuaire de Sainte-Anne. Autorisés par Mgr Fabre, ils permettent de recruter près de 16 000 personnes, tant à la Chine que dans les régions où sont établies les Sœurs de Sainte-Anne. Des dons proviennent de partout au Canada et de l'Est des États-Unis pour l'œuvre de la construction du sanctuaire. Au début de l'année suivante, les paroissiens prêtent de nouveau leur concours en organisant des corvées pour le charroyage de la pierre, ainsi que de nombreuses activités telles que des concerts, des bazars et des conférences. Tous les moyens sont mis en œuvre afin d'amasser les fonds nécessaires à la réalisation du projet, et les sommes recueillies s'ajoutent aux dons particuliers. Le 26 juillet 1888 a enfin lieu la bénédiction de la pierre angulaire. Les architectes Maurice Perrault et Albert Ménard signent les plans et dirigent les travaux. La firme Georges Bocage et compagnie s'occupe du travail de maçonnerie et la Dominion Bridge de la Chine est responsable des ouvrages en fonte et en acier. Le 14 mai 1889, l'analyste écrit « Les travaux du sanctuaire se poursuivent très activement. Dômes et tourelles, presque terminées, profilent dans le ciel bleu leurs coupoles élégantes que domine la croix. On divise les deux étages situés sous le sanctuaire. Nous espérons habiter en juillet le rez-de-chaussée qui comprendra la grande cuisine et le réfectoire. » Effectivement, les architectes furent bien inspirés de construire la chapelle au troisième étage, permettant ainsi l'aménagement d'espaces supplémentaires pour la vie des religieuses. Comme le mentionne l'analyste, le premier étage sera occupé par la cuisine et un réfectoire. Le deuxième, quant à lui, comprendra un appartement pour les aumôniers, des bureaux, un dortoir et une salle de musique. En 1942, certains espaces seront transformés pour accueillir le Musée Sainte-Anne, musée de sciences naturelles, qui perdurera pendant 30 ans. Aujourd'hui, l'ensemble du deuxième étage est occupé par le Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne. Nous vous invitons à porter attention à la construction extérieure. Observez bien les détails architecturaux de la façade. Remarquez le fronton triangulaire et les blocs de ciment ajoutés à la pierre qui imitent la pierre de taille, éléments architectoniques qui rappellent le style néoclassique du manoir Simpson. Malheureusement, les niches ornant la façade n'accueillirent jamais de statue. Levez la tête et observez la statue placée entre les deux tourelles. Le 26 juillet 1889, des grues géantes élèvent, entre les deux tourelles, la statue « L'éducation de la Vierge », représentant Sainte-Anne et Marie-enfant. Cette sculpture en cuivre repoussée sur une âme de bois et pesant 1200 livres, soit 544,29 kg, est commandée à la maison Graton et la Perle au coût de 300 $. En septembre 1889, le conseil majeur de la congrégation décide, faute de fonds, de ne pas terminer les travaux à l'intérieur du sanctuaire. La messe de minuit du 25 décembre y est tout de même célébrée. C'est au cours de cette messe, dite dans une église très froide, que Mère Marie-Anne attrapa une pneumonie qui lui fut fatale, puisqu'elle mourut le 2 janvier 1890. Comme elle l'avait prédit quelques jours plus tôt, le premier service funèbre célébré à la chapelle fut le sien. « Le bon Dieu me fera la grâce d'entendre la messe dans cette chapelle, mais le premier service funèbre pourrait bien être le mien », avait-elle dit à son entourage. Mgr Édouard Charles Fabre autorise, en 1894, la poursuite du projet. Le contrat pour la réalisation des décors et de la finition intérieure est alors octroyé à la firme montréalaise Perrault, Ménard et Veynes. En 1895, Joseph et Georges-Félix Héroux de Yamachiche, alors sculpteurs, ornementalistes et entrepreneurs, terminent le décor intérieur selon les plans des architectes. Cette même année, la fête de Sainte-Anne, célébrée le 26 juillet, est choisie pour inaugurer officiellement le sanctuaire qui lui est dédié. En 1900 s'ajoutera, aux éléments du décor intérieur, la balustrade en cuivre doré surmontée d'une table de communion en chêne poli. Pour en faciliter l'accès, on décide en 1922 de réduire à 2 les 4 degrés de la table de communion. En 1941, l'architecte Paul M. Lemieux tire bon parti d'un espace restreint pour créer un nouveau vestibule et permettre ainsi aux éventuels pèlerins de se rendre plus facilement au sanctuaire. Aujourd'hui, la chapelle n'est plus un lieu de culte. Elle deviendra une grande bibliothèque pour le Collège Sainte-Anne. Pour mieux connaître les architectes Perrault et Ménard, sélectionnez la plage numéro 11. Pour en savoir plus sur l'architecte Joseph Vane, sélectionnez la plage numéro 12. Pour en apprendre davantage sur Sainte-Anne, sélectionnez la plage numéro 13. Pour poursuivre votre visite des lieux, sélectionnez la plage numéro 14.